la pause maternelle. Bonjour et bienvenue dans la pause maternelle sur Macalade, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Cette émission est destinée aux mamans pour parler sans tabou de sujets en lien avec la maternité qui peuvent toutes nous toucher. Le but de cette émission est de leur permettre de témoigner de leur vécu. Chaque mois, nous recevons le témoignage d'une maman en direct ou de manière anonyme et nous échangeons avec elle autour de son expérience. Je suis Elodie, je suis doula et j'ai fondé Doucela et je suis accompagnée pour co-animer l'émission de Lucille, musicothérapeute clinicienne au cabinet Les Sons d'Essence. Bonjour Lucille, comment tu vas aujourd'hui ?
Bonjour, très bien, merci beaucoup pour cette super introduction, ça a changé un petit peu, c'est cool. Et voilà, je suis très très contente parce qu'aujourd'hui on va pouvoir à nouveau échanger avec une maman et en direct. C'est quand même chouette.
Ouais.
Donc j'ai hâte d'entendre parler notre chère invitée.
Alors aujourd'hui, nous recevons Pauline. Bonjour Pauline, comment tu vas ?
Bonjour, bah très bien. Merci de me recevoir.
Avec grand plaisir. Écoute, je te laisse commencer et puis dire ce qui te vient par la tête. Et voilà, c'est un échange, donc libre à toi de dire ce que tu as envie.
Tellement de choses à dire. Eh bien, la maternité, je l'ai attendue très longtemps, puisqu'avec mon mari, on a eu du mal à avoir Adèle. Donc, on est passé... Donc, Adèle, qui est ma fille, qui a maintenant 8 ans. Et nous avons eu un parcours long de PMA pour avoir Adèle. On ne sait toujours pas d'ailleurs pourquoi ça a été si compliqué, puisque les médecins n'ont pas d'explication. Ça a été un parcours de patience, d'émotions intenses, particulièrement pour la maman, puisque le rythme, les prises d'hormones, tout ça est rythmé pour cette attente d'un enfant. Ça change les émotions énormément. Il y a des moments où on est déprimé, on ne sait pas pourquoi, et c'est simplement cette arrivée massive d'hormones qui perturbe. Le moral, il y a aussi cette attente qui, on espère que ça va fonctionner, et finalement ça ne fonctionne pas, donc c'est compliqué, et à la fois ça a été pour moi une très belle expérience de couple, puisque ces 4 ans, ça nous a unis énormément, ouais. Donc j'ai trouvé ça très beau,
okay.
Et d'autant beau que nous avons eu Adèle qui est arrivée naturellement, voilà.
Comme quoi, alors... pour rappel, alors Pauline est la femme d'Emery qui était venue témoigner il y a quelques temps. Et c'est vraiment chouette de pouvoir avoir un peu les deux expériences, l'expérience de chacun. Donc c'est vraiment chouette. Et donc aussi, tu disais tout à l'heure que les médecins n'ont jamais su pourquoi ça a été si compliqué pour vous et si long. Faut savoir que il y a de plus en plus de parcours PMA, mine de rien. C'est assez incroyable. Et beaucoup ne sauront pas en finalité pourquoi elles sont obligées de passer par la PMA et par chance vous du coup c'est venu naturellement donc c'est vraiment
oui alors chouette. On a fait plein de choses j'ai fait de la micro-kiné, j'ai fait aussi j'ai vu un magnétiseur improbable au fin fond de la Normandie, donc un paysan d'un certain âge qui finalement voyait beaucoup de femmes en détresse et qui avait de très bons résultats.
Ok.
Et effectivement, il nous a dit dans 3 mois, vous serez enceinte. Alors bon, effectivement, ça ne se fait pas que par les mains. Il y a quand même la contribution du papa. Mais il est vrai que à bout de trois mois, j'étais enceinte. Et ce qui est très beau, c'est que c'est mon beau-père qui est absolument cartésien, qui nous a appelés en disant « Je viens de faire quelque chose d'incroyable, qui ne me ressemble pas. J'ai pris rendez-vous, j'espère que ça ne te dérange pas. Mais voilà, je connais quelqu'un qui est passé par là et ils ont un enfant. Et j'ai pensé à vous et du coup, j'ai pris rendez-vous. » Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Donc, on a changé nos billets de train parce que c'était plus long que prévu. Mmh. Et on a vu cette personne, ce monsieur, 2 fois. C'était étonnant parce que j'ai ressenti des choses. J'ai été malade pendant une semaine et je me suis dit « Ah bah c'est super, je viens là pour les vacances, je suis malade. » Et voilà, mais en tout cas, je ne saurais dire ce qui a fonctionné. Mon frère m'a conseillé d'aller voir un micro-kiné. Enfin, c'était vraiment une affaire finalement familiale et j'ai trouvé ça très beau, l'implication de chacun. Et la douceur que tout ça a été, cet accompagnement que je n'ai pas retrouvé chez les médecins.
Oui. C'est souvent le problème en règle générale, et d'autant plus quand il y a des parcours PMA, c'est que beaucoup de mamans témoignent de ce manque de soutien du milieu médical et de l'accompagnement émotionnel qui est pourtant très important.
Oui.
Après, c'est vraiment chouette que tu aies pu avoir ce soutien et cet accompagnement auprès de ta famille, parce que je suis pas sûre que ce soit le cas de toutes les femmes. Il y en a beaucoup qui justement se sentent incomprises dans ce parcours-là et dans les émotions qu'elles peuvent vivre. Donc c'est vraiment chouette.
Puis je pense qu'il faut expliquer que c'est normal de passer par toutes ces émotions. D'abord, il y a une attente qui est très difficile à gérer. Et puis ces hormones qui ont un impact véritable sur... on le voit de toute façon quand on a nos règles, hein, on peut avoir des variations d'humeur. Et là, ça peut être x10. Oui. Et je ressentais que j'avais tout d'un coup ce nuage extrêmement lourd. Et puis, une heure après, il était parti. Mais le temps où j'avais c'était horrible. Oui. Une espèce de grosse dépression. Et je savais que c'était pour la bonne cause. Mais au quotidien, c'est compliqué d'avoir sa petite mallette pour faire sa piqûre. Enfin, oui, tout ça est contraignant. Et je trouve que ça manque de bienveillance et d'écoute en disant on sait que c'est un parcours de combattant. Et oui, c'est un parcours de combattant et on est des héroïnes du quotidien. Et il faut. Je pense qu'il faut s'applaudir et être humble et indulgent par rapport à tout ça, parce qu'on est aussi extrêmement vulnérable, parce que c'est très dur quand il y a un désir d'enfant. Et qu'il n'y a aucune explication et que ça ne vient pas.
Oui. Oui, et puis ce qui est assez dommage, c'est que du coup, on vous met un peu sous silence, enfin, un peu beaucoup même sous silence. Enfin, on a déjà reçu Radia qui est venue témoigner aussi de son parcours PMA. Et voilà, à un moment donné, elle a carrément tapé du poing sur la table auprès du médecin en disant « Mais en fait, vous n'êtes pas humain, quoi. » Et en fait, elle n'en parlait pas autour d'elle de ce parcours parce qu'elle ne se sentait pas à l'aise d'en parler. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes comme ça aussi qui ne se sentent pas à l'aise d'en parler. Alors, est-ce qu'il y a des peurs? Est-ce qu'il y a des peurs d'incompréhension? Des peurs de faire peur à l'autre?
Mais de toute façon, on ne parle pas de maternité. Enfin, non. On ne parle pas que c'est douloureux, comment ça se passe après. Enfin, c'est un peu comme le sketch de Foresti. Il y a une espèce de secret où on
secret absolu de
on
la maternité.
Ne dirait pas, parce que sinon, je sais pas. Est-ce qu'on ferait pas? Je sais pas.
Je pense qu'il y a plein de peurs qui sont derrière cette forme-là de silence autour de la PMA et de la maternité. Je pense que autour de la PMA, parce que, enfin, tout à l'heure tu disais, il y a de plus en plus de couples qui font appel à la PMA. Mais en même temps, si on revient, avant, juste, ça ne se disait pas. Ouais, et en fait, les parents, ou futurs parents, ou en tout cas parents sans enfants, restaient sans enfants, ou alors aller avoir des enfants d'une autre manière, mais pas forcément de cette manière-là. Ça m'a fait penser au film Joy, là, qui est passé récemment sur Netflix, et qui explique justement comment est-ce qu'on a pu mettre en place la PMA, en fait, la naissance de la PMA et compagnie. Je vous invite à aller le voir si... si vous êtes intéressé, même si c'est Netflix, voilà. Moi, je pense que il y a deux choses là-dedans. C'est à la fois silencier le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfant et la honte et la culpabilité que ça peut recouvrir. Et de l'autre côté, cacher la maternité dans le sens où la maternité, en fait, fait partie d'une espèce de fonction. Et donc, du coup, tout ce qui a trait au système autour de la maternité, le fait que ce soit un fait sociologique, que ce soit un fait biologique, que ce soit un fait aussi psychologique, que ça puisse atteindre, ça, c'est des dimensions, en fait, où on n'en est pas encore là. Il y a des choses qui sont étudiées. Il y a la maternologie, il y a ce genre de choses. Mais pour le grand public, ce n'est pas forcément ce qu'on étudie et ce qu'on voit tous les jours. Donc, du coup, on ne va pas en profondeur et on ne sait peut-être pas aussi comment aborder la situation, que ce soit pour la PMA ou pour la maternité. On a peut-être, il y a beaucoup de peurs sous-jacentes, comme c'est des sujets qui peuvent être un peu sensibles, et encore plus maintenant quand on parle des conseils non sollicités et tout ça, donc les personnes peut-être choisissent aussi tout simplement de se taire, et donc du coup de ne pas prendre part à la situation. Ou alors, autre chose aussi, il y a aussi le jugement interne qui fait que soit on fait un conflit familial, soit on ne dit rien et on passe le truc sous silence et compagnie, quoi.
Après, c'est difficile de le comprendre quand on ne le vit pas non plus. Dans toute ma famille, je suis la seule à avoir eu des difficultés.
Oui.
Donc, je ne savais même pas que c'était possible d'avoir des difficultés. Ma mère a eu des enfants très facilement. Enfin, tout le monde, il n'y avait aucun problème. Donc, c'est vrai que je ne savais pas que c'était possible.
Ça renvoie à l'éducation, tu vois, par exemple.
Oui,
ça renvoie à l'environnement éducatif. Parce que moi, quand tu me dis ça...
Et c'est très privé. C'est très privé. C'est un... Pas un secret de couple, mais c'est un projet de couple. Et on ne va pas forcément en parler. Je sais que moi, j'en parlais quand, du coup, j'expliquais pourquoi il fallait qu'il y ait un espace dédié. Parce qu'à cette heure-ci, je ne pouvais pas accepter des rendez-vous. Ou en tout cas, il fallait que j'aie un endroit assez sécure pour pouvoir... Donc là, j'en parlais un petit peu. Et j'ai pas trop de tabou en fait sur ce que je peux vivre, sur mon corps, donc je parle assez librement. Mais les gens sont gênés.
Oui, mais de toute façon, dès qu'on parle du corps ou des émotions, de toute façon, les personnes sont en général assez gênées parce que c'est pas un endroit qu'on va toucher, qu'on va même envisager ou visualiser.
Exactement. Donc c'est vrai qu'il y a aussi le fait de je n'ai pas envie de mettre les personnes mal à l'aise ou en tout cas avoir envie d'avoir de réflexion non plus parce qu'il y a des gens qui ont plein de. Parfois avec de bonnes intentions, mais plein d'idées toutes faites sur des choses qui ne les ont jamais touchées. Et donc, parfois, on ne parle pas parce qu'on a envie de se protéger et parce que c'est une histoire à deux.
Mmh. Aussi. Oui. Et quand tu dis ça, moi, ça me fait penser aussi à mon cours de biologie. On revient en arrière aujourd'hui. Mais c'est une question, par contre, dont moi, j'ai tout de suite été au courant. Parce que la question s'est posée, vous savez, qu'on avait éducation sexuelle à un moment donné en bio. Et on parlait des règles et compagnie. Et à un moment, j'ai une de mes amies qui lève la main et qui dit à la prof, mais du coup, si on a nos règles, on peut donc du coup avoir des enfants. Et qu'elle avait répondu, et je pense juste parce qu'elle avait posé la question en fait, parce qu'elle n'aurait pas posé la question, je suis pas sûre que ça serait venu pendant le cours. Mais elle lui a dit, ah non, c'est pas obligé, on peut aussi avoir de l'infertilité, on peut aussi avoir des problèmes aussi de fertilité, et on ne sait pas d'où ça vient. Et moi, je sais qu'on était en cinquième à ce moment-là, et que du coup, ça m'a fait tout de suite penser autrement. Et j'ai tout de suite envisagé, moi, de mon côté, que si je ne pouvais pas avoir d'enfant, je pourrais peut-être adopter. Et voilà, c'est là qu'aussi j'ai commencé à nourrir ma potentielle maternité de cette manière-là. Je pense que ça m'a plus accompagnée du fait qu'il y a eu cette question pendant le cours, qui est venue franchement très naturellement. Et après, on a beaucoup, beaucoup rigolé, parce qu'en fait, on a dit, bah, putain, c'est quand même assez naze, en fait. Tu peux avoir tes règles, mais... Tu peux ne pas avoir d'enfant, voilà.
T'as un truc tous les mois qui vient t'embêter et potentiellement tu peux pas avoir d'enfant.
Oui, alors c'était aussi avant Kiffe ton cycle et compagnie, où du coup, voilà, on avait... Mais je pense qu'on est une génération aussi qui a été un peu plus avertie sur ce genre de choses. Et donc du coup, on avait déjà une forme d'éducation aussi qui faisait qu'on... Bah oui, c'est possible. Et dans mes amis, du coup, il y en a qui ont des difficultés à avoir des enfants en ce moment, mais qui du coup prennent la chose en envisageant les différentes possibilités et se sentent pas coupés ou coupables ou quoi que ce soit. Fatigués, ça c'est sûr, parce que émotionnellement, comme tu le décris, c'est extrêmement fatigant, parce que tu fais les montagnes russes presque sans arrêt. Le futur papa aussi, parce que c'est très très exigeant et voilà. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohésion de couple. Mais je pense que l'information est essentielle. Ouais. Et donc du coup, je trouve que ce que tu fais aujourd'hui, c'est essentiel. C'est pouvoir informer les gens et dire non, ben en fait, bon, déjà la maladresse existe, mais faites attention, peut-être poser les questions autrement, peut-être poser des questions avant d'affirmer des choses. Et puis de l'autre côté, n'hésitez pas à vous renseigner. En fait, l'éducation, c'est l'éducation à tous. Là, tu parles de ta famille qui t'entourait, enfin, qui peut même aller voir un magnétiseur et compagnie, enfin, vous avez déjà travaillé sur le premier cercle, le socle, moi, dont je parle à mes patientes, qui est de est-ce que vous avez un premier cercle qui est solide? Et je pense que ça aide déjà à quels que soient les possibles qu'on envisage, ça aide quand même d'avoir ce socle-là, je pense, à la base, qui fait que, ok, quoi qu'il arrive, on est encerclé, on est entouré aussi, quoi.
Oui, puisqu'il faut aussi relativiser. Enfin, moi, je sais que j'ai rencontré Aymeric très tard. Donc, il y a cette. J'avais déjà cette connaissance de les choses n'arrivent pas forcément quand on en a envie.
Aussi.
Donc aussi, toujours quand on dit oui, mais c'est quand ils pensent le moins que ça arrive, c'est agaçant. Mais c'est vrai que de se dire que quand ça devient une obsession, ça devient aussi mauvais pour soi.
Et puisque c'est stressant.
C'est stressant. Mmh. Et cette question de se dire, moi j'ai jamais pensé, enfin, se dire oui, moi quand je, si j'ai des enfants, j'en aurai plusieurs, mais c'était une projection pour moi. J'avais pas l'envie d'avoir un enfant, elle est venue quand j'ai rencontré Aymeric, mais pas. J'adore les enfants, mais tant que j'avais rencontré personne, je m'étais faite à l'idée que je n'aurais pas d'enfant. Et ce n'est pas grave, parce qu'il n'y avait pas un besoin d'avoir un enfant pour moi. L'enfant, c'était ce projet à deux. Et du coup, quand j'ai rencontré Aymeric, c'était oui, ça y est. Y a cette envie, elle est commune. Et c'est vrai que là, je me sens. J'ai une envie d'avoir un enfant, et il a envie d'avoir un enfant avec moi.
C'est vraiment aussi très hétérogène hein, de la manière dont on va conceptualiser la maternité et dont le désir va se
Et c'était se dire, ça ne vient pas, bah ça ne vient pas.
Ouais.
C'est pas grave. Et puis peut-être que il y a quelque chose dans mon corps qui fait que ça ne correspond pas, ça ne peut pas. Je préfère qu'il n'y ait pas d'enfant que de forcer les choses et d'avoir un enfant qui soit pas mal formé ou et qui devra vivre avec ça parce que j'ai absolument voulu avoir un enfant.
Oui.
Et ce qui est difficile, c'est d'arriver à se détacher de la projection et de cette envie de maternité et de se dire si ça doit venir, ça viendra aussi.
Je pense qu'il faut aussi parler des maternités multiples aussi. Enfin, je sais que là, voilà, on parle de la PMA. Moi, quand j'envisageais ça, j'envisageais aussi l'adoption parce qu'il y a plein d'enfants. Ouais. Et après, de pourquoi est-ce qu'on a envie d'être maman ? Ça, c'est une question, je trouve, le désir d'enfant sur est-ce qu'on a envie d'avoir un enfant pour soi ou est-ce qu'on a envie d'avoir, de pouvoir voir et d'apprendre aussi comment est-ce qu'on accompagne un être ?
Oui, mais c'est compliqué de savoir. Est-ce qu'on a l'honnêteté de se dire quelles sont les véritables causes ?
Oui, quand on fait une psychanalyse,
je crois
tranquille.
Que c'est compliqué. Mais on avait commencé à Aymeric à faire les réunions pour adopter. Mais on était déjà des vieux parents. Donc, au niveau de l'adoption, l'enfant que l'on pouvait avoir était forcément un enfant de plus de 7 ans. Mais on était prêts. Mais c'est vrai que c'est des démarches qui sont tout autant compliquées parce que c'est long, il faut faire des réunions. Après, il faut avoir, et je n'ai plus le terme exact, c'est pas l'agrément. Et dans les réunions qu'on a fait, il y avait des parents qui avaient perdu l'agrément parce que c'est une durée limitée. Et dans cette durée limitée, ils n'avaient pas eu la possibilité, parce que c'est pas parce qu'on a l'agrément qu'on peut avoir un enfant, donc il fallait qu'ils recommencent tout le parcours. Ouais. Donc, ce sont des parcours que l'on passe par la PMA ou par l'adoption qui sont vraiment. Enfin, c'est.
Émotionnellement.
Il faut prendre son bâton de pèlerin et il faut y aller avec cette foi que si ça doit venir, ça viendra. Mais qu'est-ce que c'est dur et qu'est-ce que c'est compliqué. Et je trouve qu'il n'y a pas de suivi psychologique et c'est vraiment dommage parce que. C'est ce je pense que pour être bon parent, il faut qu'on soit. Aider à ce moment-là.
Oui. Je pense que même déjà, quand on le pense, c'est pour ça que tu disais, je ne sais pas si c'est un peu difficile de savoir pourquoi. En fait, si posons-nous la question de pourquoi est-ce qu'on a envie d'avoir des enfants. Est-ce que c'est un besoin ? Est-ce que c'est un manque ? Est-ce que c'est une envie ? Qu'est-ce que ça accompagne derrière ? Je pense que c'est même assez sain de se poser la question de pourquoi, en fait. Parce qu'on n'est pas tous obligés d'avoir des enfants. Enfin, je veux dire, moi, il y a des personnes que je connais qui n'ont pas d'enfants, même dans ma famille, et qui l'assument pleinement, et je suis de tout cœur avec elles, parce que je comprends pourquoi. Et que je trouve que d'avoir une pluralité d'envie de materner et d'envie de ne pas materner ou de parenter, eh ben, je trouve que c'est génial aussi, parce que la société, elle est aussi hétérogène.
Oui,
donc, à un moment donné, mais je pense que le suivi psy ou la philo, de toute façon, c'est quelque chose qu'on devrait faire beaucoup plus tôt.
Je suis entièrement d'accord.
Je voulais juste, avant de faire une pause musicale, je voulais juste parler un peu du parcours de PMA et des examens, parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Et pareil, moi, dans mon entourage, j'ai des femmes qui commencent des parcours PMA ou qui sont en train de réfléchir. Et quand je vois la bataille pour avoir les rendez-vous, parce qu'il faut que le rendez-vous, il faut appeler au bon moment, en fonction du cycle.
Du cycle, oui.
Et puis que l'examen, il tombe au bon moment dans le cycle. Enfin, pour le peu que le premier jour des règles tombe un samedi, bah, faut appeler pour tel examen. Sauf que bah, samedi est maternité, et puis les centres d'examen, ils sont fermés. Donc du coup, on appelle le lundi, puis on nous dit, bah non, mais c'est trop tard.
Et ça repousse d'un cycle.
C'est, enfin, je me dis, mais c'est quand même hallucinant que ça ne soit pas pris en compte, en fait. La nature ne soit pas prise en compte dans les examens. Pourquoi ne pas ouvrir des permanences pour les rendez-vous spécifiques PMA
Les week-ends,
tu les veux week-ends, dire justement, parce que bah, les règles, c'est pas du lundi au vendredi, ça peut débarquer à tout moment.
Ah, mais parce que du coup, on est peut-être dans une forme très industrialisée de la chose, oui. Et pas forcément physiologique, c'est difficile.
On en revient là, évidemment.
Oui, mais je pense qu'il y a aussi une question de moyens humains, après, parce oui. que... Moi, la première gynécologue que j'ai eue, elle était formidable. Humaine, douce, à l'écoute. Après, j'ai eu affaire à des hommes et c'est juste un constat. Mais ça n'était plus la même écoute. Déjà, le premier rendez-vous, il y avait la radio. Chérie FM. Et ça me faisait très mal aux oreilles. Et moi, je ne peux pas me concentrer sur quelqu'un. Quand il y a une radio, enfin, quand on fait un rendez-vous pro ou quoi que ce soit, on ne met pas de radio. Donc on lui a dit, donc Aymeric m'a accompagné, c'était le premier rendez-vous, en disant, mais s'il vous plaît, éteignez votre radio. Et son explication, c'est que ça détendait. Je dis, non, mais là, ça ne me détend pas du tout. Et en fait, à chaque examen, il y avait sa radio. Et je vais jusqu'à l'anecdote où je devais faire un examen un peu spécifique pour aller un peu plus loin, pour cette recherche, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et j'avais demandé de le faire par hypnose. Oui. Ils ont oublié que c'était par hypnose. Donc, ils sont allés chercher une stagiaire qui en avait entendu un peu parler. Donc, en termes de travail d'hypnose, ça n'a pas fonctionné. Et il est arrivé avec sa radio. Donc, l'auto-hypnose avec de la radio, ça n'a pas fonctionné. Ce qui fait que j'ai douillé quand il a fait l'examen en disant, ah ben voilà, elle a mal. Donc, le L, c'est toujours très agréable. Ah. Vous avez, mais je suis là. Donc, ils ont dû utiliser un masque avec le gaz euphorisant pour me détendre, mais j'ai subi ça, mais comme une agression.
Ouais, c'est pas étonnant.
Donc, je pense qu'on ne peut pas généraliser, parce qu'il y a des gens qui sont formidables. Oui. Et puis, revoir la question de quels sont les moyens qui sont aussi à leur disposition pour pouvoir être à l'écoute. Je pense qu'il n'est pas toujours là, malheureusement.
Le constat qui est souvent fait, c'est que... Et Radia en avait très bien témoigné... quand elle est venue parler de son parcours PMA, que le médecin lui a dit « Oui, je me suis coupée de mon côté humain et j'en suis désolée. » Et s'il y a des médecins qui nous entendent, s'il vous plaît, ouvrez-vous à l'humain dans vos rendez-vous, parce que en fait, l'écoute, c'est tellement essentiel dans une prise en charge. Je vous propose une petite pause musicale et puis on revient tout de suite après.
My sweetest choice, oh solitude, oh solitude, my sweetest, sweetest choice, places devoted to the night, remote from tumult and from noise, how ye my restless thoughts delight. Oh, solitude. Ooh,
Écoutez la pause maternelle sur Calade, votre rendez-vous maternité mensuel tous les premiers lundis du mois. Aujourd'hui, donc, on reçoit Pauline qui est venue nous témoigner de son parcours dans la maternité avec un parcours PMA durant l'aventure. Et avant qu'on continue, je voulais vous partager une petite ressource parce qu'on parlait avant la pause musicale justement de l'éducation autour de la maternité et le fait, Lucille, tu partageais ton cours de biologie où ta prof parlait des règles et que le fait qu'on puisse avoir des enfants dès qu'on a les règles et tout ça et que les difficultés pour avoir un enfant sont très peu évoquées. Que ce soit dans les familles, à l'école, dans la société. Et j'ai ma fille qui, très tôt, m'a demandé comment on faisait les bébés. Et c'est vrai que c'est toujours... C'est un sujet que moi-même, je n'ai pas évoqué avec mes parents. Donc voilà, c'était un sujet qui me mettait mal à l'aise. Mais justement, c'était important pour moi d'être en capacité d'en parler avec elle parce que je ne voulais pas que ce soit un tabou. Et j'ai trouvé un super livre qui est dans la collection Mes petits pourquoi. Et je trouve que c'est une collection qui est géniale, qui vient aborder plein de sujets différents, dont faire un bébé, et où il parle justement du parcours PMA, qui a des couples qui ont du mal à avoir des enfants, et il parle du parcours PMA, de l'adoption, dont on a évoqué aussi. Donc voilà la petite ressource que je voulais vous partager. On continue, Pauline ?
Avec plaisir. Donc PMA, oui, alors comment reprendre et puis j'ai changé de structure, oui. Puisque le médecin que je voyais avait pris sa retraite, et j'avais une connaissance qui avait été suivie par un gynécologue qu'elle avait trouvé formidable. Donc je prends rendez-vous avec cette personne, j'avais donc vu micro-kiné et magnétiseur, Et un lundi, je prends rendez-vous pour rencontrer toute l'équipe. Donc, j'avais apprécié cette démarche parce que sur l'autre, l'autre je n'avais pas vu les équipes qui m'expliquent le rôle de chacun. Et le biologiste me dit « Bon, alors, on commence quand ?» Et là, je dis « Ben, j'attends mes règles. Oui. Et alors ?» Et là, je commence à calculer et je me rends compte que j'ai du retard. Et je dis « Mais vous pensez que je fais un test ?» Donc, c'était déjà fin d'après-midi. Non, en général, vaut mieux que les urines soient concentrées. Je vous conseille peut-être demain. Et puis, c'est quand même bizarre de parler ça, parce que là, on parle quand même de préparer une FIV et on sort de là. Et dans le week-end, j'avais eu des nausées que je ne connaissais pas. Je dis à mon mari, tu m'achètes 2 tests de grossesse. J'ai pas fait pipi de la journée. Donc, je pense qu'en termes de concentration, ce n'est pas bien, mais je pense que c'est concentré. Et on essaie de trouver un bar. On trouve un bar, mais il y avait une fête avec plein de vieux. Donc, je fais une queue monstre pour avoir accès aux toilettes. Je m'installe, je fais mon test. Ça tambourine à la porte parce que le temps que ça... Et là, je vois qu'il est positif. C'est incroyable. En fait, dans mes souvenirs, je sors des toilettes, je vole. Je n'ai pas marché, j'ai volé, véritablement. Et mon mari l'a vu. Enfin, il m'a vu arriver en volant, et donc il a tout de suite compris. Donc on s'est dit, il y avait quand même cette excitation. On l'a quand même annoncé à nos familles en disant, je fais une prise de sang le lendemain quand même. J'ai fait une prise de sang qui a donc confirmé que j'étais bien enceinte. Donc je rappelle le gynécologue, enfin la secrétaire, en disant, je suis enceinte. Et il me dit, c'est super! Oui, mais je n'ai pas passé, j'ai pas fait la FIV. Ah ! Eh ben, c'est super. Et elle me dit, mais ça arrive très souvent. Je dis, mais du coup, est-ce que vous me suivez ou pas ? Elle me dit, pas bien, bien évidemment. Bien évidemment, vu votre âge. Parce qu'effectivement, bah, j'ai attendu Adèle, j'avais 40 ans. Donc, je trouve que j'ai eu le plus beau cadeau d'anniversaire de tous les temps. Et ça a été une grossesse incroyable. J'ai jamais été aussi bien dans mon corps. Donc, très surveillée.
Oui.
Mais j'étais en
Je me permets de te couper pour faire cette petite aparté. À partir d'un certain âge, une grossesse est considérée comme grossesse gériatrique.
Oui.
Je trouve ce terme complètement nul. Parce qu'à 40 ans, on est en pleine force de l'âge, enfin, on est encore en pleine forme, tout va bien pourtant.
Oui, c'est ça.
Mais, et on est aussi considéré grossesse à risque.
À risque, tout à fait.
Donc voilà, une surveillance plus accrue.
Exactement.
Avec des contrôles plus réguliers.
Exactement.
Donc voilà.
Oui. Ah oui, complètement. Mais ce qui est assez étonnant, c'est que du coup, on est suivi, et une fois qu'on a accouché, on n'est plus suivi. Ça, c'est autre chose, mais ça a été merveilleux. Moi, j'ai des douleurs chroniques, même continuelles au niveau du ventre. Je n'ai plus du tout eu mal au ventre. J'avais une patate, j'avais des cheveux magnifiques, j'avais des seins. Mais j'en ai profité pour mettre des décolletés que je n'ai jamais osé mettre. Mais on en profite. Je dis à Aymeric, mais prends-moi une photo. Et j'étais ultra en forme. J'ai fait de la gymnastique avec ma fille, mais j'ai adoré ça. J'ai fait des concerts parce que je chantais encore à l'époque avec ma fille et j'ai trouvé ça génial.
Au niveau de la voix aussi, ça change énormément de choses. Hein. Ça ouvre quand même pas mal.
C'était super. Sauf quand vous allez rentrer en scène pour chanter et que là, elle décide de vous appuyer sur la vessie et que vous ne peux pas retourner à la toilette. Adèle, bouge de là, s'il te plaît. Mais fabuleux. Et grâce à ma fille, j'ai découvert un métier que j'ai commencé à faire, qui est le chant prénatal, parce que le chant prénatal a sauvé mon accouchement. Alors, pas chant prénatal comme on peut l'entendre, pas complètement, mais
le chant périnatal.
Le chant. En fait, j'ai chanté pendant tout du long, et particulièrement un chant qui m'a accompagnée, j'en avais besoin, et je le chantais énormément. Et l'accouchement ne s'est pas bien passé. Donc, on a cru qu'on allait perdre Adèle, donc ça a été très compliqué. Et je savais que c'était possible qu'on puisse avoir une césarienne, mais comme là tout se passait bien, je n'avais pas été prévenue que jusqu'au bout, c'était possible d'avoir ce revirement et d'avoir une césarienne en urgence. Donc ça a été notre cas. Heureusement pour nous, l'anesthésiste était encore là, le médecin de garde était là, donc on a eu de la chance. Mais il y avait une peur palpable dans la salle qui, moi, m'a énormément perturbée.
Coupée aussi.
Et puis, tout a été d'une violence. Donc, on vous emmène. Je suis séparée de mon mari alors qu'on avait prévu de tout faire ensemble. Là, on m'installe sur une table où il faut m'attacher les bras alors qu'elles n'y arrivent pas. Et je leur dis, mais dépêchez-vous, en fait. C'est pas grave si vous ne pouvez pas m'attacher les bras. Il me parle de choses, mais invraisemblables. Mais c'est pas grave si la prochaine fois vous ferez un accouchement naturel. J'ai envie de lui dire, mais en fait, vous savez
c'est
même pas ce qui s'est
suite,
passé.
En fait.
Ça se trouve, je n'aurais pas. Enfin bref, elle sort. Je suis heureuse, je l'entends. Ils me la mettent au-dessus de ma tête, mais comme je suis attachée, j'essaie de bouger les yeux pour essayer de voir ma fille, et c'est hyper fugace. Ils me la récupèrent. Moi, je culpabilise d'avoir une césarienne parce que j'avais vu que c'était hyper important pour la naissance, qu'elle passe, pour sa probiotique. Je me dis, tout ça, je ne peux pas lui donner. Enfin bref, mon mari me retrouve dans la salle de réveil. Ma fille nous rejoint dans sa couveuse parce qu'il fait trop froid. Et là, je la vois et je me dis, je ne peux pas l'avoir encore dans mes bras. Et là, je me mets à chanter le chant que j'ai chanté pendant toute la grossesse. Et là, on a notre première rencontre. Et là, j'ai vu son regard qui s'illumine et qui fait « Oh, t'es ma maman !» Et ça, mais ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée. Sinon, c'était trop dur. Bien sûr que j'étais contente d'avoir ma fille. Et les gens ont du mal à comprendre cette douleur.
Le lien, en fait, que tu as envie d'avoir là tout de
et
suite. Et
qu'on
ne peut
pas
avoir. Avec ton enfant, de toute façon, parce qu'il est à l'intérieur de toi. Et comment après, tu... Enfin, c'est avoir les bras attachés et pas pouvoir toucher son enfant alors qu'en fait, il était à notre contact sans arrêt.
Et que c'était possible pour eux de la poser sur moi. Enfin, Et du coup, ben, ce chant nous a permis de nous rencontrer en disant, ben voilà, Adèle, je suis ta maman, je suis très contente de te voir. Et c'était merveilleux de voir ce... Ouais, c'est un souvenir ultra puissant. Et je me suis dit, mais comme je suis passionnée par la voix, je me suis dit, mais ça faut le donner, ce pouvoir, il faut le donner aux mamans.
Messieurs, dames, bienvenue en musicothérapie périnatale. Voilà. Comme ça, au moins, les gens, vous savez à peu près à quoi ça ressemble, en fait, de pouvoir créer du lien. Alors, créer du lien avec son enfant, créer du lien avec la maman aussi, parce que c'est pas juste le four qui contient un bébé, c'est aussi, voilà, tout un espace de vie, toute une conception aussi. Enfin, il y a de l'anthropologie, il y a quelque chose quand même derrière à avoir, quoi. Cette conception du lien à l'autre, et le lien et le soin relationnel. Et moi, je trouve que ce qui est décrit dans ton histoire, c'est que le soin peut passer par la voix, que c'est ce que ta fille a entendu en premier.
Exactement.
Aussi de toi.
Ouais.
Donc l'empreinte vocale, elle l'a dans sa tête, elle l'a dans ses oreilles, et c'est quelque chose qu'elle gardera jusqu'au bout, parce que ça aussi, c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup, beaucoup parler, mais les voix qu'on peut entendre, moi j'appelle ça des ghosts un petit peu, mais ta fille, elle entendra ta voix jusqu'à la fin en fait. Même après, il y a des choses qui vont revenir en fait.
Et ça fait des enfants ultra éveillés. On a j'ai eu du coup droit à une visite d'une psychologue le lendemain. Et Adèle était en position, là, comme ça, comme ils sont, une petite boule. Déjà qu'ils ne sont pas bien grands, mais ils sont encore plus tassés. Et la psychologue me parlait pour savoir comment j'allais. Je n'ai pas pu commencer à parler que Adèle s'est mise à parler dans son langage de bébé. Et en fait, elle était ultra éveillée. Et c'est vrai que ce que l'on peut remarquer, c'est que ces enfants qui ont été au contact du chant, que ça soit le chant de la maman, parce que quand on fait du chant prénatal, c'est pas uniquement la maman qui chante. C'est très bénéfique pour la maman, mais c'est bénéfique pour toute la famille. Et l'enfant, il a besoin aussi de cette harmonie vocale, que ça soit les aigus et les graves apportés par le papa. Et ça peut permettre aussi au papa d'être déjà présent. Et ça fait des enfants, mais tellement, tellement éveillés. Alors, après, quand on est parents...
Moi, je trouve que ça apporte un équilibre aussi, et dans le couple, et dans la parentalité.
Baba, oui. Donc voilà, donc je conseille...
De découvrir, que l'enfant puisse découvrir aussi qu'il a deux voix, qui l'accompagne, qui a le papa et la maman, en sachant que les papas n'ont pas été inclus tout de suite dans la maternité, dans la parentalité, au niveau des accouchements.
Très tard, je dirais.
Les années 70, et de manière assez violente aussi, parce que du coup, pas préparé avoir et à recevoir toutes ces informations.
Imposé, surtout au début, je dirais.
Voilà, et donc avec des situations de stress qui ont entraîné plein d'autres difficultés au niveau des accouchements. On parlera de Michel Audin, mais voilà. Et je trouve que d'introduire le chant de cette manière-là, mais comme on introduit les massages aussi, d'introduire les points d'acupression, d'introduire cette manière-là aussi de se mouvoir. Moi, je sais que j'explique beaucoup aussi les manières de faire des étirements ensemble.
Et on a fait de l'aptonomie.
Voilà.
Et ça, quel bonheur.
Et de pouvoir aussi jauger, au niveau corporel, d'avoir une lecture aussi corporelle de l'autre, c'est-à-dire à la fois du papa et à la fois de la maman, de comment ils se sentent le matin et de pouvoir faire les étirements ensemble. En fait, d'être ensemble, d'être en harmonie, de comprendre ce que c'est que l'harmonie. Et donc là, voilà, que tu aies pu lui chanter, c'est génial. Je pense que Aymeric aussi, il nous a expliqué aussi son parcours et de son côté, son ressenti de son côté. Et je trouve que voilà, ça crée une cohésion et un port d'attache pour Adèle. C'est merveilleux. Enfin voilà, même si ça s'est pas passé comme prévu, vous avez gardé quand même
cette continuité.
Moi, je voulais te remercier pour d'avoir témoigné que même avec une césarienne, il est possible de créer du lien à la naissance avec son enfant, parce que c'est souvent la crainte qui se passe chez les mamans qui apprennent qu'elles vont devoir avoir une césarienne, ou que ce soit de manière un peu plus préparée en amont ou même en urgence. Donc vraiment, je tiens à te remercier. Alors là, tu nous as parlé du chant prénatal, périnatal. Il y a d'autres manières de créer.
Oui, et je pense
qu'en
fait, il faut vraiment qu'on s'affirme. Moi, j'ai une tendance, une nature trop gentille à pas m'affirmer. Mais j'aurais pu demander, imposer, à ce qu'ils me la mettent sur moi quand j'étais dans la salle d'opération.
Oui, tout à fait.
Parce qu'il y a... Enfin, je veux dire, il faut que le temps de recoudre, c'est quand même vachement long. Oui. Et donc, elle pouvait être sur moi, très clairement.
Surtout s'il n'y a pas d'urgence vitale pour le bébé, il n'y a aucune
donc,
raison de séparer.
J'ai envie de dire aux femmes, mais imposez-vous, parce que c'est votre accouchement. Ce n'est pas le leur, ce n'est pas... C'est pas à l'équipe d'imposer sa façon de faire, sauf quand effectivement il y a une question vitale. Mais pour le reste, imposez votre demande. Et j'ai appris aussi, par rapport à cette question de ne pas passer pour les probiotiques, enfin tout ça, qu'il y a d'autres moyens justement pour pallier. Mais on n'est pas informé.
Oui.
Et aussi, on a informé. Enfin, souvent, on n'ose pas dire. Donc, j'ai envie de dire aux mamans, créez-vous votre projet de maternité, et quand vous avez votre projet de maternité, imposez-le. Je sais que par exemple, quand on parle de champ prénatal, il y a plein de femmes qui nous disent, donc on les forme, enfin on les forme pas, on apprend à utiliser le champ pour être bien dans son corps, mais après elles nous disent oui, mais à l'hôpital, ils ne veulent pas. Et c'est là où on leur dit, mais en fait, ils n'ont pas à vous imposer une façon de faire.
Oui, mais là on est sur l'expérience de 1000 grammes. À un moment donné. C'est... Alors moi, je trouve ça super qu'on puisse dire aux femmes, imposez-vous, faites ci, faites ça. Mais encore une fois, c'est aussi leur imposer autre chose. Et il y a quand même aussi une restructuration de la pensée. C'est-à-dire que de passer de la personne qui est en soumission, on va dire, à passer à une personne qui a envie de... Qui sait dire ce qu'elle pense de manière ancrée, sans forcément être aussi dans une forme de virulence ou voilà... Pour moi, il y a aussi un pas, parce que ça peut aussi être violent pour la personne d'essayer de s'imposer, d'essayer de dire et que ça soit compliqué. Donc pour moi, il y a aussi une rééducation déjà pour soi. Et il y a un deuxième truc que tu as dit, c'est on ne nous le dit pas. Mais en même temps, on peut aussi aller chercher les informations. Mais ça aussi, pour aller chercher les informations, ça demande aussi une reconstruction.
Tout à fait.
Vous pouvez choisir. Je pense qu'on peut, on peut dire ça, c'est que...
On peut choisir, mais des fois, on n'ose pas dire... On a prévu quelque chose, parfois, on n'ose même pas le dire.
Oui.
Donc, dire que l'on a un projet.
Mmh. Oui.
Voilà.
Et encore une fois, sans urgence médicale, ni pour la maman, ni pour le bébé, il n'y a aucune raison que les médecins ne dérogent à votre projet de naissance. Sauf parce que la maternité est blindée de monde, il y a une recrudescence d'accouchement et que du coup tout est millimétré au niveau du temps. Et ça, ça ne vous concerne pas. Donc là, vous pouvez imposer votre projet de naissance.
Et c'est là qu'il y a une importance du troisième cercle. C'est-à-dire qu'il y a le premier cercle, la famille, le deuxième cercle, les amis, et le troisième cercle, c'est les personnes professionnelles qui peuvent vous accompagner là-dedans. Sauf que, alors, on peut être en one-to-one avec une doula, avec un thérapeute, on peut être comme ça. Sauf qu'après, le thérapeute ou la doula n'est pas forcément là. Donc il faut pouvoir apprendre ça soi-même, le sentir dans son corps, qu'est-ce que ça veut dire se positionner, mettre en place des outils qui peuvent nous détendre et aussi affirmer notre parole, affirmer et poser notre voix. Ça, pour moi, c'est le côté de se mettre en communauté, c'est-à-dire de créer des agoras, comme je peux le faire aussi, c'est-à-dire où on se rejoint entre femmes ou entre parents pour pouvoir aussi travailler là-dessus sur le psychocorporel, quoi. Quand là, j'avance, mettre en situation, tu vois, un peu comme de la dramaturgie, mais en gros, comment est-ce que là, si je me positionne comme ça, j'arrive en face de toi et je te dis « Non, en fait, vous n'avez pas le droit, on est à l'hôpital, vous n'avez pas le droit ». Comment tu reçois l'information? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de toi? Ça demande, pour moi, je parle moins de déconstruction que de reconstruction, parce que l'affirmation, on l'a eue quand on avait 2 ans.
Oui.
Il y a des personnes qui parlent du terrible tout, moi je parle de super tout. Mais le super tout, en fait, fait que du coup, on va aller dans une phase d'affirmation. C'est une phase après qui a été déconstruite petit à petit, mais qu'on peut reconstruire si on est suffisamment accompagné, suffisamment porté, mais par une communauté aussi. C'est-à-dire qu'on a nos 3 cercles, mais à la fin, on a quand même ce truc-là de savoir se comporter, de pouvoir interagir avec d'autres dans différentes situations et de voir aussi tout ce qu'on a pu vivre, de recréer une espèce de micro-société pendant un temps pour pouvoir travailler ces questions-là, qu'on soit enceinte ou qu'on ne le soit pas. Parce que du coup, quand la situation se présente, le cerveau, il est moins en PLS parce qu'on lui a créé une espèce d'habitude où du coup, il va pouvoir dire non. Là, OK, cette situation, je la connais, je ne suis pas en danger et je peux dire ma parole. C'est pour ça que pour moi, c'est en plusieurs temps. On ne peut pas leur dire Vous avez le choix, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ci. Ouais, mais si en fait je suis traumatisée, si en fait j'ai peur, si en fait je suis introvertie, si en fait... Plein de si en fait. Plein de si en fait qui ont fait qu'aujourd'hui ma personnalité est déconstruite d'une certaine manière. Et je ne parle pas déconstruite comme on peut en parler là, mais déconstruite de manière peut-être un peu négative. Et ben, ça va nécessiter un temps de reconstruction qui va être vraiment, vraiment nécessaire pour pouvoir porter sa voix et pouvoir aussi porter sa voix avec son enfant. Pouvoir aussi après l'accompagner. Parce que quand on est d'une nature à pas forcément dire les choses, faut pas non plus aller voir les bulles carrées. Ton enfant, il va pas, peut-être pas forcément affirmer des choses non plus parce qu'il, comme disait Jung, l'enfant fait reproduit ce que nous, on est en train de faire. Donc comment est-ce qu'on va le porter aussi pour que lui puisse porter sa voix? Ça commence là, en fait. C'est même de l'embryogenèse vocale, quoi, si vous voulez. Si on peut utiliser tous les néologismes de la Terre, mais comment est-ce qu'on porte une personne à construire sa pensée et à construire sa parole?
Ouais. Je vous propose une petite pause musicale avant de terminer l'émission. On se retrouve juste après.
Yes.
Enfant, j'étourdissais le vent du chant gracieux de mes paroles. Aujourd'hui la neige auréole de ses flocons, les herbes folles de mes cheveux. Des quatre saisons de la vie, c'est l'automne qui a cueilli sous mon arbre cinquantenaire la plus tendre fleur que la terre m'ait choisie. Poussez, poussez, l'enfant arrive au monde. Laissez venir jusqu'à nous le divin mystère de sa nativité. À la mer, riez, pleurez, larmes de ferveur et de joie pour célébrer.
Nous sommes de retour sur Macalade dans la pause maternelle avec Pauline. Donc juste avant la pause musicale, on a évoqué le fait que la césarienne fait que l'enfant n'est pas en contact avec le microbiote de la maman, parce que c'est vrai que par voie basse, du coup, il passe dans le vagin de la maman, qui est riche en microbiote. Et justement, t'avais cette notion-là, Pauline, et, dont tu nous as fait part. Mais je voulais revenir là-dessus parce que Michel Audin en parle très bien dans le... Il me semble que c'est dans le podcast avec la matrescence, si jamais vous voulez aller écouter, que même avec une césarienne, il est possible de mettre en contact l'enfant avec le microbiote de la maman. Ce microbiote, en fait, qui va venir protéger la peau du bébé. Et c'est vrai qu'il y a des études qui montrent qu'un enfant qui naît par césarienne sera plus sujet à l'eczéma, par exemple. Donc voilà, si jamais vous voulez aller explorer ce sujet-là, n'hésitez pas, Michel Audin en parle très très bien. Je te laisse la parole, Pauline, si tu as des choses à rajouter.
Oh, j'aurais tellement de choses à dire.
En même temps, on a aussi parlé hors antenne. Vous ne pouvez même pas imaginer, en fait, à quel point on papote dans cette émission. Et c'est ça qui est aussi intéressant.
Oui, c'est nourrissant.
C'est nourrissant pour ce genre de rencontre.
Je n'ai pas du tout vu passer à l'heure. Moi, ce que je trouve merveilleux, c'est que je suis toujours émerveillée quand je vois ma fille en me disant « Oh, c'est ma fille !» Et je suis heureuse. Et de découvrir chaque jour le bonheur d'être maman, la difficulté aussi d'être maman, tous les doutes que cela met en soi. Et ce qu'Adèle m'a permis de me grandir, d'apprendre sur moi, de sortir de ma zone de confort pour être mieux, pour être plus juste, pour être plus incarnée, pour oser être. et de me poser la question, qu'est-ce que c'est d'être une femme et qu'est-ce que je veux enseigner en tant que femme à ma fille pour qu'elle soit... C'est déjà une fille qui est tellement plus forte que ce que je n'étais et je suis tellement contente qu'elle ait du caractère, même si ce n'est pas toujours facile tous les jours, mais je remercie qu'elle ait ce caractère pour être elle dans le monde. Et j'ai hâte de continuer toutes ces étapes parce que c'est vrai qu'à chaque âge, on découvre une autre facette de ce que c'est que la maternité et d'apprendre à rendre son enfant de plus en plus libre jusqu'au jour où il quittera le nid, ce qui ne sera pas évident. Mais c'est un merveilleux voyage où l'on se construit également. C'est un apprentissage sur soi qui est merveilleux.
C'est une manière de se former aussi en tant qu'être humain, d'une certaine manière.
Exactement.
On peut faire sans. C'est,
Oui, totalement.
C'est pas du tout obligatoire.
C'est une voie différente.
Mais c'est un chemin qu'on peut envisager, qu'on peut voir et qui est énormément et étonnamment transformateur, en fait. On s'imagine pas ça.
Et tout au long de notre vie, il faut...
Oui.
C'est pas
mais
juste
chaque jour, c'est chaque jour est différent. Il n'y a pas. Mais je ne pensais pas apprendre autant sur moi. Et j'ai énormément. Je me suis révélée encore plus à moi-même et accepté des choses que je n'avais pas voulu voir. Donc, il y a un côté où d'être plus honnête envers soi-même et c'est beau. Et puis aussi de composer à deux. Parce qu'on élève à deux. Et j'ai la chance de pouvoir élever, dans le sens de vraiment l'amener plus haut avec quelqu'un avec qui je partage les idées et j'ai toute confiance. Et ça aussi, c'est une chance.
Et ça se sent. Et même Aymeric nous en avait parlé quand il était venu. Son implication dans son rôle de papa qui était essentiel pour lui et c'était beau aussi à entendre.
Oui.
Eh ben, je vous propose qu'on clôture l'émission sur ces derniers mots. Je voulais vraiment te remercier, Pauline, d'être venue témoigner aujourd'hui de ton beau parcours. Et c'est vraiment chouette de pouvoir... Vous êtes le premier couple à venir témoigner chacun de votre côté.
C'est vraiment la chose la plus intéressante, je trouve, là, qu'on ait eue. C'est la complémentarité de vos discours, de vos parcours, de comment vous voyez les choses et en même temps... le fait que vous soyez vraiment ensemble, même là, il y en a un qui est là-bas et toi tu es ici.
Oui, je confirme.
Mais n'empêche que du coup, il y a ce côté aussi d'écouter l'autre, même quand il est à distance. Je trouve ça génial.
On sent votre lien.
Ouais.
Et puis nous, on se retrouve tous les premiers lundis de chaque mois à 10h pour un nouveau témoignage. Et si vous aussi, vous voulez venir partager votre vécu au micro de la pause maternelle, alors, je me suis rendu compte que je me trompais chaque mois sur l'adresse mail. Donc, je la rectifie. Donc, c'est lapausematernelle@outlook.com et non .fr. En attendant, prenez soin de vous. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
La pause maternelle.